Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle les grands titres de l'hebdo à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence avec notre Arlésienne, on va dire, la bataille des retraites.
Oui, disons que ça revient toutes les semaines et parce que c'est une bataille, on va dire c'est la mère des batailles sociales en ce moment.
Oui. Hein.
Et alors, on ne s'avancera pas trop en disant qu'on rentre dans une phase décisive. Hein. On peut la qualifier de décisive. On a une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril.
Oui.
Donc, ça sera la 11e journée de mobilisation depuis le 19 janvier. Hein. Plus de deux mois et demi de mobilisation dans une qui est donc initié par une intersyndicale, tous les syndicats français.
Mmh.
Et donc, nous revenons largement sur ces enjeux dans le numéro de vendredi.
Mmh. À Montpellier, les associations sont mobilisées contre deux autres lois, décidément. Le projet de loi Darmanin contre les réfugiés et les immigrés et la proposition de loi Kasbarian-Berger, votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dite loi anti-squat.
Oui, tout à fait. En fait, il s'est passé samedi dernier plusieurs manifestations en France et il y a eu Paris, il y a eu Montpellier.
Oui.
On a à Montpellier des associations très mobilisées sur les questions du logement et des droits, on va dire, des étrangers, des immigrés, des réfugiés. Et là, on est en prise avec des projets de loi Darmanin.
Mmh.
Alors, c'est vrai que le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé que ce ne serait pas une grande loi immigration, mais qu'elle serait en découpée, elle serait présentée à la découpe.
Oui.
Mais donc, il y a quand même dans le contenu de ces projets de loi des mesures qui visent à contraindre un peu plus l'accueil des immigrés et des réfugiés.
Mmh.
Et parallèlement, donc, les associations ont manifesté concomitamment aussi contre une loi, ce qu'ils appellent une loi anti-pauvre.
Mmh.
C'est un projet, une proposition de loi qui est portée par deux députés de la majorité relative Macron, Kasbarian et Berger. Elle a été votée en deuxième lecture et elle vise officiellement à lutter contre les squats, mais en fait elle est lourde de danger pour les ménages précaires qui peuvent être en but à des expulsions locatives qui ont redémarré depuis le 1er avril.
Et oui, fin de la trêve hivernale. Justement,
tout à fait.
Justement, on continue à aller dans le même sujet avec la Fondation Abbé Pierre et d'autres structures qui ont mis en place un dispositif pour les locataires menacés d'expulsion.
Oui, donc c'est un dispositif qui existe depuis quelques années. En fait, c'est un dispositif, une plateforme interassociative. Hein, et donc, il y a des permanences, notamment une permanence téléphonique qui permet aux personnes, aux ménages en difficulté d'avoir un accompagnement social et juridique.
Mmh.
L'intérêt, c'est aussi que ça permet de mesurer l'aggravation un peu des situations de précarité de l'accès, de précarité du logement et de l'accès au logement. Et c'est évidemment à rapprocher de la situation de crise économique avec une flambée des prix de première nécessité où il y a des arbitrages impossibles que doivent faire les personnes qui ont très peu de revenus entre se nourrir, se loger et se chauffer.
Mmh.
Et donc on fait un point avec cette structure qui est là pour aider les personnes à sortir la tête de l'eau, mais c'est pas évident dans la période que nous traversons.
Allez, la Marseillaise revient aussi sur la présentation du plan École 2030 de la mairie de Montpellier, budgété à hauteur de 400 millions d'euros, un engagement qualifié d'inédit.
Oui, en fait, c'est le maire Michael Delafosse, donc, qui est donc à la tête de la mairie de Montpellier avec une majorité de gauche, hein, diverse, qui a présenté son plan école 2030. Alors l'éducation, ça fait partie avec la gratuité des transports, ça fait partie des grandes priorités de la municipalité. On est quasiment à mi-mandat.
Oui.
Et donc, ça permet aussi, certainement politiquement, de se rendre compte que peut-être Michael Delafosse s'inscrit un peu dans la durée. Mm-hmm. C'est vrai que initier des politiques en un seul mandat, c'est compliqué.
Et oui.
Surtout quand on s'attaque à des questions comme ça soit des questions enfin le logement, comme on en a parlé, mais aussi l'école. Mm-hmm. Donc ce plan prévoit un certain nombre de constructions, de rénovations, et donc le maire dit qu'il faut relever des grands défis, c'est-à-dire accueillir les enfants, puisque Montpellier accueille en moyenne 10 nouveaux habitants tous les jours.
Oui.
Donc ça, c'est un peu la moyenne, et donc il y a une démographie assez importante. Voilà. La mixité et la sobriété énergétique, et il ajoute l'imaginaire, parce que l'école, c'est aussi le lieu de la construction du citoyen.
Et oui, et on le rappelle, Michael Delafosse, son vrai métier de base, oui. Est professeur.
Il est professeur, je crois qu'il est professeur d'histoire.
D'histoire géo. Allez, pour finir, direction la culture, la Marseillaise met à l'honneur la formidable trouvaille des archéologues de l'INRAP qui ont découvert des gravures datant de moins 20 000 ans au pied des Costières de Nîmes.
Oui, alors au pied des Costières de Nîmes, au port de la Camargue, en fait, ces fouilles ont démarré en 2016, donc ça remonte. Hein.
Oui.
Elles ont été, donc, l'INRAP, quand il y a des gros travaux qui sont prévus, il y a l'obligation de faire des fouilles, parce que nous sommes dans une région où il y a, il y a encore beaucoup de patrimoine enfoui à découvrir. Et donc, c'était l'extension d'un site d'enfouissement de déchets qui avait déclenché ces fouilles archéologiques en 2016. Et depuis 7 ans, l'INRAP avait été assez discret sur ses trouvailles, mais a dévoilé le 30 mars ses découvertes. Alors, ils ont estimé, grâce évidemment à la datation au carbone 14, que ces trouvailles appartenaient aux Magdaléniens, c'est-à-dire c'est une période qui se situe entre 14 000 et 20 000 ans avant notre ère.
Oui.
Et en fait, ils ont découvert des choses assez uniques, des gravures, du mobilier en pierre qu'ils ont reconstitué et qui est assez unique. Ils ne pensaient pas trouver ça aux portes de la Camargue. Et donc, on revient sur leur trouvaille. Alors, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Certainement, des choses vont être exposées pour que le grand public, pour qu'on puisse nous le découvrir.
Mmh.
Et il y a eu énormément de découvertes. Et on fait le point sur cette communication très importante de l'INRAP.
Mmh. Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et puis on développe tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, cette une de la Marseillaise avec la bataille des retraites qui entre dans une phase que l'on peut qualifier de décisive, la 11e journée de mobilisation nationale.
Oui, la 11e journée de mobilisation nationale, donc appel, donc grève et manifestation, ça sera donc le jeudi 6 avril.
Oui.
Et donc, il y a une bataille sociale et politique contre la retraite à 64 ans. Alors, il faut savoir que dans l'Hérault, il y a pas moins de 9 manifestations qui sont prévues.
D'accord.
C'est intéressant de citer les villes. Alors évidemment, il y a Montpellier, où le rendez-vous, c'est toujours à 10h30, place Zeus.
Ouais.
Mais il y a aussi des villes comme Sète, Béziers, Agde, Saint-Pons, pardon, Lunel, Lodève. On peut compter aussi Bédarieux et Ganges. Voilà, c'est 9 manifestations qui sont organisées. On a une mobilisation toujours importante, même si ça peut fluctuer parce que c'est quand même la 11e journée. Ça fait 2 mois et demi que l'intersyndicale est mobilisée, qu'il y a des mouvements de grève importants qui se mènent dans notre région. Moi, je pense notamment aux cheminots à Montpellier. Il y a aussi donc il y a du côté de Frontignan l'occupation aussi régulière du dépôt pétrolier. Oui. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les étudiants du SCUM, du syndicat de combat universitaire de Montpellier, fait pleinement partie de l'intersyndicale et travaille vraiment main dans la main avec les syndicats. Alors, ils travaillent aussi parce que ce sont aussi en partie des travailleurs, les étudiants. Hein. Il y a un étudiant sur deux qui travaille pour payer ses études et ils participent notamment à des blocages. Ils sont allés voir les cheminots et les cheminots sont allés les voir aussi sur leur campus pour les aider à tenir le blocus qui, notamment à Paul Valéry, qui c'est un blocus qui tient depuis le 7 mars.
D'accord.
Donc on a ce mouvement social toujours déterminé à faire reculer le gouvernement qui est très entêté, qui a toujours joué et qui joue toujours sur le pourrissement de la situation. Oui. Depuis l'usage du 49-3, il y a eu un basculement avec vraiment une colère qui est montée et on va dire du côté aussi de l'exécutif, du pouvoir. Le parti de faire monter la tension. On voit bien avec la place qui est prise par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et puis les violences policières qui sont dénoncées. Donc il y a tout ce contexte-là. Et puis il y a la bataille politique, où là, les élus de la NUPES, notamment, viennent en fort soutien depuis le début au mouvement social. Ils y participent. Et il faut noter les prochains rendez-vous importants, ceux qui ont déjà eu lieu cette semaine, puisque mardi, les parlementaires communistes et d'autres parlementaires de gauche sont allés de l'Assemblée nationale à l'Élysée apporter une lettre officielle où ils demandent le retrait de la réforme au président de la République. Ces mêmes parlementaires, eux, refusent de rencontrer la Première ministre parce qu'ils estiment que c'est Emmanuel Macron qui a la main sur ce dossier. On l'a bien vu sur le 49-3, on le voit dans ses déclarations. Donc c'est ce que nous dit notamment, on le fait parler dans nos colonnes, le chef de file du Parti communiste à l'Assemblée nationale, qui est le député André Chassaigne. Il a dit le président a repris la main sur le dossier, c'est donc lui que nous venons voir, il résume comme ça. Et donc, il faut absolument, de leur point de vue, le retrait de cette réforme, parce qu'il y a aussi un enjeu de remettre de l'apaisement dans la société. Voilà. Donc, il y a aussi le recours devant le Conseil constitutionnel, puisque on sera à une semaine vendredi 7 avril de la décision du Conseil constitutionnel sur deux aspects. Le texte en lui-même, va-t-il ou pas le censurer, à quel degré? Et puis, il va se prononcer aussi sur la demande de référendum d'initiative partagée, qui permettrait aussi, si c'est validé, ça peut être une porte de sortie aussi, et pour le gouvernement,
oui,
et
pour
surtout
tout le monde.
Pour tout le monde, de mettre sur le tapis cette question des retraites et de faire en fait se prononcer les Français sur cette réforme des retraites, sachant que l'outil référendum ne veut pas être utilisé, c'est un des outils à la disposition du chef de l'État, il ne veut pas l'utiliser. Donc voilà, donc dans ce dossier, évidemment, nous allons rendre compte des manifestations. Nous avons aussi un reportage en immersion auprès des étudiants des campus. Voilà pourquoi les jeunes se mobilisent. On fait aussi, on relate aussi l'extrême droite qui, avec le RN, semble, entre guillemets, par son attitude très ambiguë, bénéficier dans les enquêtes d'opinion d'un regain d'intérêt pour les électeurs, malheureusement. Mais parallèlement, l'extrême droite vient aussi casser les grèves, notamment sur les campus. Et il y a eu, des agressions sur le campus, sur plusieurs campus en France, à Paris, à Lyon et à Montpellier aussi, il y a quelques semaines de ça. Donc c'est important aussi de montrer aussi le vrai visage de l'extrême droite par rapport au moment que nous vivons sur la bataille des retraites.
Allez, à Montpellier, les associations sont mobilisées contre deux autres lois. Le projet de loi Darmanin contre les réfugiés et les immigrés et la proposition de loi Casbarian-Berger votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dite loi anti-squat.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que la réforme des retraites qui suscite un fort rejet. Mmh. Il y a ce qu'on appelle, bon, nous, pour aller vite, le projet de loi Darmanin, mais enfin, c'est la grande loi immigration que Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur veulent faire voter. Alors, vu le contexte, le président de la République a annoncé lors de son allocution, enfin, lors de son interview, que cette loi serait en fait découpée en plusieurs parties, parce qu'évidemment, en ayant une majorité relative...
Oui, c'était pas prévu à la base.
Voilà, mais voilà. Mais il y a dans les villes, samedi, il y a eu plusieurs mobilisations, notamment sur la question du logement, mais aussi à Montpellier, les associations qui se sont mobilisées, je pense à Réseau Éducation Sans Frontières notamment, mais pas que, qui ont fait le lien et qui ont manifesté à la fois contre ce projet de loi Darmanin, il y avait la CIMAD aussi, et contre ce projet de loi dit anti-squat, mais qui pose de sérieux problèmes pour les personnes qui sont en précarité de logement et menacées d'expulsion.
Et je crois même, Françoise, que c'est une loi en fait qui ne va pas régler le vrai problème des squats en plus.
Mais non, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que on va avoir. Alors, le discours officiel, c'est de protéger les petits propriétaires. Mmh. Sauf que plutôt que de traquer les marchands de sommeil ou faire respecter le droit au logement opposable, cette loi, en fait, nous explique ces associations, elle va faciliter l'expulsion des locataires en situation d'impayé de loyer, parce que c'est le préfet, donc ce n'est pas la justice, c'est le préfet qui va reprendre la main. Et sur le juge, que le juge, lui, pouvait décider d'étaler le remboursement des loyers et donc permettre aux personnes de rester dans leur logement. Donc, pour les associations qui se mobilisent, notamment à Montpellier, mais au niveau national, c'est vraiment une atteinte frontale au droit au logement, disent-elles, parce que le juge, lui, il interprète la loi. Le préfet, il représente l'État et il applique une politique. Donc, évidemment, il y a aussi le responsable de la LDH à Montpellier, Thierry Lerche, donc, qui nous fait part de ses craintes. Évidemment, la première des craintes, c'est une aggravation du mal-logement. C'est-à-dire que les locataires qui sont insolvables ou les personnes qui squattent ne seront pas les seuls visés pénalement.
Voilà.
Par exemple, en occupant des locaux commerciaux, nous explique-t-il, par exemple de leur entreprise, une occupation ou un campus, les grévistes pourraient aussi tomber sous le coup de cette loi. Et donc, si elle est adoptée en l'état, c'est 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende qui sont prévus.
D'accord.
Donc voilà, donc on est sur quelque chose de grave, hein, et donc ces manifestants, il y avait 250 citoyens, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même, ils sont un peu les vigies de ce qui se joue, au-delà de la grande bataille des retraites qui mobilise aussi beaucoup. Ça s'est organisé à l'appel d'une dizaine d'associations. Et donc, ils ont aussi protesté et dénoncé les dérives sécuritaires. Et pour eux, ça rappelle la surenchère du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, ils dénoncent ces lois répressives qui vont pénaliser ces personnes qui sont en grande précarité.
Mais on sent par là, Françoise, que le gouvernement fait comme à son habitude, en fait, c'est-à-dire qu'il prend des sujets d'actualité, il essaye de ficeler une petite loi assez rapidement, et en fait, on voit que ça ne répond pas du tout au sujet.
Mais disons que c'est une politique, oui, ça répond pas au sujet, et surtout ça répond à des... c'est vraiment, on est dans des choix politiques qu'on peut qualifier très facilement de droite, voire qui flirtent avec les thèses de l'extrême droite. Voilà. Par exemple, asile et immigration, c'était le nom de la loi, la grande, parce que grosse loi qui était prévue, qui va donc être saucissonnée, ce projet de loi. Il vise notamment à faciliter les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Et comment le faire ? La loi prévoit de restreindre les possibilités de recours pour les réfugiés qui sont déjà pénalisés, on l'avait déjà écrit dans la Marseillaise, par la dématérialisation des procédures administratives. Donc, ce que nous explique toujours Thierry Lerche de la LDH, c'est que jusqu'ici, les demandeurs d'asile passaient devant l'office français l'OFPRA pour les réfugiés. Il y avait aussi un recours possible face à trois juges qui permettait une certaine équité. Et là, il n'y aura plus qu'un juge, ce qui va augmenter un peu l'arbitraire. Donc, ça nous semble important de donner la parole à ces citoyens engagés, à ces associations, pour qu'ils nous révèlent un petit peu les contenus de ces lois qu'on peut qualifier de liberticide, où on va, en période de crise, toujours chercher le bouc émissaire, en l'occurrence l'étranger, ou en l'occurrence aussi le pauvre. C'est pour ça qu'ils ont, ils se sont rassemblés sur la question du logement et la question du sort réservé aux personnes immigrées et aux demandeurs d'asile.
On reste dans cette question du logement et notamment du mal-logement avec la Fondation Abbé Pierre et d'autres structures qui ont mis en place un dispositif pour les locataires menacés d'expulsion.
Oui, en fait, il y a depuis 2016 maintenant, donc ça fait à peu près 7 ans, c'est la Fondation Abbé Pierre qui a été à l'initiative de cette plateforme d'accompagnement aux droits liés à l'habitat. Donc, en fait, c'est devenu, depuis 2016, un dispositif vraiment majeur en matière de prévention des expulsions sur Montpellier et sa métropole. Donc c'est extrêmement important parce qu'elle propose cette plateforme dont nous donnons tous les renseignements pratiques dans l'article qui paraîtra vendredi avec le numéro de téléphone. Elle est faite pour proposer un accompagnement social et juridique à des ménages qui sont menacés d'expulsion ou qui sont confrontés au problème de l'habitat indigne. Donc il faut savoir déjà un petit bilan, comme nous l'explique Coralie Richou dans le journal, un petit bilan sur le nombre de demandes, de sollicitations plutôt. Ça a doublé. Il y avait à peu près 200 sollicitations en 2017. C'est passé à 440 aujourd'hui. Donc, sachant que tout le monde ne passe pas par cette plateforme. Et donc, la crainte aussi des associations qui animent cette plateforme d'accompagnement des personnes en difficulté et menacées d'expulsion, c'est que peut-être que le pire est devant nous, dans la mesure où on a vraiment une inflation actuelle qui aggrave la précarité. La précarité des ménages, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en but à des arbitrages impossibles entre pouvoir se nourrir avec des prix sur les produits de première nécessité qui flambent. On a une liste hallucinante des augmentations de prix qui sont au-delà de 20%, 30%, que ce soit des pâtes ou des choses vraiment de première nécessité. Ça vient se conjuguer à la fin de la trêve hivernale depuis le 31 mars. Ça vient aussi, ce qui leur fait dire qu'on est peut-être devant quelque chose de catastrophique, c'est que près de la moitié des bailleurs sociaux, donc ceux qui s'occupent du logement social, ils ont constaté au dernier trimestre 2022 une augmentation de plus de 10% sur un an du nombre de ménages en difficulté financière, autrement dit du nombre d'impayés. Donc, il y a aussi un autre aspect que nous soulevons, c'est qu'il y a la fin du dispositif exceptionnel qui a été mis en place pendant la crise sanitaire, hein, qui permettait de prévenir et d'empêcher et de restreindre les expulsions locatives. Donc elles ont été freinées, elles n'ont pas été arrêtées, elles ont été freinées. Maintenant, c'est terminé. Mmh. C'est-à-dire que le recours à la force publique s'est de nouveau accordé. Et évidemment, la plateforme fait le lien sur la loi Kasbarian dont on parlait précédemment, donc qui a été votée très récemment, c'est le 4 avril, hein, mm-hmm. et ça risque aussi, comme on le disait, d'aggraver les choses. Donc, cette question du logement, elle est vraiment fondamentale. On voit bien qu'il y a une flambée des prix des loyers. On a un manque de logement social récurrent. C'est pas que à Montpellier ou dans sa métropole, c'est partout en France.
Et puis, il y a une flambée des prix des logements sociaux aussi, on peut le dire.
Il y a une flambée des prix des logements sociaux. Tout le logement social n'est pas forcément bon marché, si je puis dire. Et surtout...
Oui. Pardon,
oui, vas-y Bruno.
On pourrait dire par exemple qu'un logement social de maintenant vaut le loyer d'un logement normal d'il y a 15 ans presque.
Oui, oui, oui. Et en même temps, on ne peut pas dire que les revenus, que ce soit les revenus, les minima sociaux ou les salaires, aient eu la même augmentation. Si on additionne l'inflation galopante, qui est quand même quelque chose d'extrêmement grave pour les personnes qui ont très peu de revenus, et il y en a beaucoup, on a un quart, je crois que c'est un quart de la population qui est quand même en dessous du seuil de pauvreté à Montpellier. Donc on touche du doigt des problèmes de fond et on n'a pas de politique qui réponde comme tu le disais précédemment, aux véritables questions.
Mmh. Allez, affaire à suivre. La Marseillaise revient aussi sur la présentation du plan École 2030 de la mairie de Montpellier, qui est budgétisé à hauteur de 400 millions d'euros. C'est pas rien.
Non, ce n'est pas rien. Ça permet de rappeler que ce sont les municipalités qui ont en charge la construction, l'entretien, la rénovation des écoles. Mmh. Et donc, ça concerne tout le monde. Hein, on est tous passés par l'école. Les enfants d'aujourd'hui sont à l'école dès l'âge de 3 ans. Et donc, c'est très important de souligner la présentation de ce plan. Sachant que d'ici 2030, le maire de Montpellier, donc Michael Delafosse, hein, donc qui maire d'une municipalité de gauche diverse, hein, des écologistes, des communistes, des socialistes, des radicaux. Donc c'est bien de le poser parce que une politique, c'est jamais neutre. Hein, il y a toujours un choix politique. Oui. Et ces choix politiques, il fait le choix de l'éducation avec la gratuité des transports qui était vraiment la mesure phare du programme de la municipalité, enfin du programme de l'équipe de la Fosse, puis de la municipalité une fois qu'elle est arrivée, qu'elle a été élue par les Montpelliérains. L'éducation fait partie aussi des grandes priorités. Donc là, ce grand plan école 2030, il prévoit notamment la construction de 5 groupes scolaires, mais aussi de SELF au nombre de 6. Il y a aussi des cours végétalisés et la rénovation des écoles vétustes pour évidemment que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. L'inclusion aussi. Ah. Et les économies d'énergie.
D'accord.
Donc tout ça, ça fait beaucoup, et donc ce qui explique ce budget à hauteur de 400 millions d'euros. Donc c'est inédit, hein, c'est qualifié d'inédit bon, par le maire, hein, qui évidemment défend ses choix. Ça répond aussi à la croissance démographique, on en parle
demande.
Tout le temps, mais la croissance démographique de Montpellier, alors il y a un chiffre qui est assez marquant, pour bien la mesurer, il faut savoir que tous les jours en moyenne, la ville de Montpellier gagne 10 habitants par jour. Donc c'est à la fois très positif, mais ça veut dire qu'il faut que les services publics suivent, donc et notamment les écoles. Hein, donc on peut donner, on donne toute la liste liste des écoles. On va dire que cette année, en 2023, il y aura une école Jeanne Moreau à la Croix d'Argent. Mmh. Ça va s'étaler jusqu'en 2026. Il y en aura une autre à Port-Marianne. Il y a des extensions d'écoles et il y a des reconstructions qui seront réalisées d'ici la fin de la décennie, nous explique le maire, hein, qui a donné une conférence de presse. Hein. On a aussi de prévu dans ce plan, ce qui est annoncé, c'est 52 rénovations énergétiques, ça représente 25 millions d'euros. Mmh. Et donc, alors évidemment, la ville a un petit peu fait une entorse à, pas à l'écologie, mais bon, elle a quand même prévu d'installer la climatisation dans une salle de chaque ancienne école. D'accord. Parce que, évidemment, les écoles ne sont, sont complètement, subissent une forte canicule. Et c'est vrai que les enfants, dans des classes qui, à 30 degrés, c'est pas possible. Oui. Voilà. Donc, c'est une salle qui va être une salle fraîche pour permettre aux enfants d'être quand même dans de bonnes conditions. Et ce qui est important, et c'est pas du tout aussi une coquetterie ou quelque chose de plus, c'est qu'il va y avoir 9 cours d'école supplémentaires qui vont être végétalisés. Alors c'est un choix qui n'est pas simplement écologique, et ça c'est intéressant. c'est que la mairie nous explique qu'une petite fille qui entre dans une cour d'école, elle prend immédiatement conscience que le rapport de force ne lui est pas favorable.
Absolument.
Et il y a une étude qui prouve que les cours d'école genrées sont une source de futures violences faites aux femmes. Mmh, ça,
absolument.
C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Et c'est vrai que quand on dit qu'il faut éduquer les enfants, éduquer les petits garçons notamment, ça passe aussi par la cour d'école qui peut être une véritable jungle si elle n'est pas pensée.
Mmh. Mais à Divergence FM, Françoise, nous avions fait un reportage justement sur les cours d'école des collèges. Et le problème qui ressortait de cette étude, il fallait revoir la façon de faire les cours d'école en enlevant peut-être le terrain de basket et le terrain de foot en plein milieu de la cour où les garçons vont tous, et puis les filles restent en périphérie du coup.
Tout à fait, mais tout à fait. On a tous, enfin en tout cas moi en tant que fille, à l'école, on en a fait l'expérience. Si on n'allait pas jouer avec les garçons pour s'imposer, on était aux marges, aux marges de la cour. Et donc la mairie nous explique que donc ils veulent des espaces qui soient moins bétonnés, pardon, plus calme, avec de nouveaux jeux, où on apprend dans le plaisir. Et donc, l'objectif vraiment ambitieux, mais on ne peut que l'applaudir et le souligner, c'est de casser les clichés et faire travailler l'imaginaire de l'enfant. Et c'est pour ça que ce plan école, c'est pas que des... Quand une mairie construit, quand une mairie rénove, il y a aussi, on le sent bien, un objectif aussi qui n'est pas que, on va dire... strictement utilitaire,
oui, bâti,
avec des murs. Il y a aussi un projet accompagné aussi, faciliter le projet pédagogique qui relève évidemment de l'éducation nationale et de la communauté éducative, mais la communauté éducative évidemment au sens large, à savoir les enseignants, à savoir les enfants, leurs parents, aussi les élus, la mairie qui travaille. Et c'est peut-être la clé de la réussite pour permettre une instruction, une bonne éducation.
Mmh. Allez, un bon point pour la mairie de Montpellier, tiens. Allez,
voilà.
Pour finir, côté culture, la Marseillaise met à l'honneur la formidable trouvaille des archéologues de l'INRAP qui ont découvert des gravures datant de moins 20 000 ans.
Oui, tout à fait. Alors, ça se passe en fait dans le Gard, hein, c'est pas très loin. On est au pied des Costières de Nîmes, aux portes de la Camargue. Et donc, en fait, l'INRAP, depuis 2016, mène des fouilles dans le cadre d'un grand chantier d'extension d'un site d'enfouissement de déchets. Donc, c'est ça qui a déclenché les fouilles archéologiques. Hein. Et depuis 7 ans, ils ont été assez discrets, l'INRAP. Mmh. Mais le 30 mars, l'Institut donc a dévoilé ses découvertes, hein, et donc ils ont pu, grâce à 17 datations au carbone 14, ils ont découvert des œuvres d'art mobilier qui se situent dans la période de ce qu'ils appellent magdalénien, c'est-à-dire c'est entre 14 000 et 20 000 ans avant notre ère. On a dit, c'est assez vertigineux.
Ouais.
Et donc... Il souligne que c'est particulièrement rare dans le sud-est de la France, et encore plus inattendu au port de la Camargue. Elle figure donc ces œuvres d'art mobilier parmi les plus anciennes œuvres connues pour cette culture du paléolithique. Hein. Ouais. On peut faire la comparaison. C'est au même titre que les peintures et les gravures pariétales de la grotte Lascaux. Mmh. Et ce que nous dit l'INRAP, c'est que ce site de Bellegarde, il est vraiment amené à devenir une référence à l'échelle régionale, mais aussi nationale. Hein.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis à jour? C'est ça qui est intéressant et que nous rendons compte dans la Marseillaise vendredi. Donc, ils ont trouvé des plaquettes gravées de profit de chevaux.
Oui.
On retrouve, ils nous disent que ce sont un style qu'on retrouve aussi en Ardèche, dans certaines cavités en Ardèche,
ouais.
Mais aussi dans la grotte Cosquer à Marseille, et qu'on peut visiter hein, depuis quelques mois. Ils ont fait une découverte assez formidable. C'est une représentation féminine qu'ils qualifient d'exceptionnelle.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qui est représenté? Eh bien, cette œuvre qu'ils ont découverte, elle a 16 000 ans à peu près. Et en fait, c'est des représentations de vulves féminines.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, ils avaient peur de rien. Et donc, peut-être que les historiens aussi vont travailler sur la signification. Pourquoi on représente des vulves féminines?
Mmh.
Est-ce que c'est pour la fertilité? Est-ce que c'est parce que les femmes avaient des places importantes?
Mmh.
Parce que cette vulve-là, elle est figurée de manière exagérée, disproportionnée, encadrée par le haut des jambes. Et ça, ils l'ont mise à jour de façon... ils étaient complètement... ce sont des découvertes uniques, dans la vie d'un archéologue. Hein.
Mmh.
Il n'y a pas d'équivalent connu, nous disent-ils, sauf sur une paroi de la grotte de Cazelles en Dordogne.
D'accord.
Voilà. Donc, ce que nous disent ces découvertes, nous explique l'INRAP, c'est que certainement, plusieurs populations ont occupé le site, hein, c'est à peu près 2000 m² qui ont été fouillés, mais de manière un peu discontinue. Ils pensent que c'est réparti, bon, évidemment, leurs études leur montrent que ça a dû être réparti en 5 grandes phases,
oui,
qui se sont échelonnées sur environ 6000 ans.
D'accord.
Donc nous sommes en 2023, on
oui,
voit à peu près, faut toujours, on a du mal à faire l'échelle.
Oui.
Hein. Voilà, donc il va y avoir aussi au-delà des pièces exceptionnelles, ils ont aussi trouvé énormément d'ossements de rennes,
oui,
du charbon de bois, de pin sylvestre et de bouleau.
Mmh.
Et donc, ça indique la présence d'un climat froid. On a du mal à le croire aujourd'hui. Mmh. On peut en savoir plus grâce à ces fouilles sur l'environnement de l'époque, dans quel climat les hommes vivaient à cette époque. C'est formidable. On fait paraître aussi des photos que l'INRAP nous a confiées, hein, puisqu'ils ont présenté ça à la fin du mois de mars.
Mmh.
Et on espère évidemment qu'on reviendra encore sur ces découvertes. Comment vont-elles être portées à connaissance au-delà de leur communication actuelle? Mais est-ce qu'on va pouvoir voir,
oui,
de nos yeux, voir ces magnifiques découvertes?
Mmh. En tout cas, vous avez Ramsès II à Paris en ce moment.
C'est ça, mais on a la grotte Cosquer à Marseille.
Voilà Françoise, tout est dit pour cette
voilà,
une de la Marseillaise.
Voilà. Tout à fait, on a encore beaucoup d'autres sujets dans l'hebdo, donc avec notre supplément, je tiens à le dire, Zébuline,
oui,
donc 4 pages spéciales culture supplémentaires, et notre supplément TV aussi, Diverto, tout ça pour 3 euros à retrouver en kiosque à partir du 7 avril, vendredi.
Et on vous encourage à vous rendre dans tous les bons kiosques vendredi, chers auditeurs. Merci beaucoup Françoise et on se donne
Merci
rendez-vous
Bruno.
La semaine prochaine.
Bien sûr, très volontiers.
À la semaine prochaine.
en partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.